C'est cette parole que nous voulons ouvrir ensemble. Pendant ce mois d'août, pour ceux qui étaient là, nous avons essayé de parcourir un fil conducteur autour du verbe « tenir ferme », l'idée de tenir ferme, de fermeté dans la foi. Et nous arrivons à la dernière prédication, réflexion sur ce sujet-là. Je vais relire un texte que nous avons médité déjà il y a 15 jours. C'est un texte dans Éphésiens chapitre 6. Nous l'avions déjà considéré sous l'angle du fait que lorsque nous nous engageons dans la vie avec Dieu, nous allons aussi nous engager dans une œuvre qui rencontre de l'hostilité, des oppositions, des réticences, et il nous faut être prêts à cela. Et nous avions souligné ce contexte général dans lequel nous devons envisager notre service pour Dieu. Et je vous invite maintenant donc à relire ce texte pour aller plus dans le détail de quelques éléments qu'il nous donne. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principalités, les pouvoirs, les dominations, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Jusqu'ici, notre lecture. Avec quel équipement allons-nous affronter les difficultés et les combats de la vie? Nous évoluons dans un monde où le projet de Dieu rencontre et suscite toutes sortes d'oppositions et d'hostilités. En nous-mêmes, parfois, nous découvrons ce genre de résistance, des découragements face à ce que nous devrions être ou devrions faire. Il arrive aussi que des sollicitations très ciblées nous atteignent au moment où et à l'endroit où nous sommes le plus vulnérables. Comment résister? Comment opposer un refus? Comment rester fidèle à ce que nous voulons être? Certaines circonstances aussi peuvent nous déstabiliser. Pas facile de tenir debout, de rester attaché à ce que l'on croit, de garder notre cap. Un alpiniste qui part pour une expédition en haute montagne accorde un grand soin à son équipement. Des cordes, des crampons, des chaussures, des mousquetons, un piolet, la nourriture nécessaire, les balises Argos. Rien n'est laissé au hasard. Partir pour faire un 4000 mètres en basket et en t-shirt, la fleur à la bouche, serait pure folie. Juste de l'inconscience. De même, un marin doit veiller au moindre détail de l'équipement de son bateau s'il part pour un long périple en mer. Et pour nous aussi, entrer dans le projet de Dieu est une affaire sérieuse. C'est une entreprise de longue haleine. C'est une œuvre exigeante, un combat indiscutable. Pensons-nous pouvoir nous dispenser d'un bon équipement? Pensons-nous pouvoir tenir ferme, tenir la distance, rester debout face aux circonstances et aux hostilités sans avoir le souci d'être bien équipés? Nous ne sommes pas, avec nos seules ressources et nos simples ressources, à la hauteur de l'enjeu. Il nous faut être équipés, armés même, nous dit l'apôtre Paul. Et Dieu lui-même veut être notre équipementier. Prenez toutes les armes de Dieu, nous dit l'apôtre, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre est clair, il est lucide. Il y a dans la vie chrétienne des mauvais jours. Il y a des jours de tempête. Il y a des obstacles à surmonter. Il y a des victoires à remporter. On ne s'engage pas dans une promenade de santé quand on commence sa vie chrétienne. Ce n'est pas choquant en soi. Tout engagement un peu sérieux connaît ce genre d'exigence. Tout engagement sur la durée fait rencontrer ce genre de situation où il faut tenir, persévérer, se battre pour aller jusqu'au bout. Toute percée en terrain hostile demande ce genre d'effort et de combat. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit « Prenez les armes de Dieu, revêtez-vous, armez-vous, équipez-vous ». Mais il a soin de nous dire aussi que quelqu'un a pourvu à notre partage. C'est le Seigneur. « Prenez les armes de Dieu, nous dit-il, celles qu'il vous donne. Il les a préparées pour vous, lui qui prend soin de vous et qui veut vous équiper pour vous permettre de tenir. » Dans l'Ancien Testament, le Seigneur lui-même est décrit à un moment comme se revêtant d'un casque et d'une cuirasse pour venir au secours de son peuple. C'est Isaïe qui emploie l'image au chapitre 59 de son livre, et il dit « Voilà, le Seigneur se revêt de sa justice comme d'une cuirasse et du salut comme d'un casque. » On remarquera qu'il y a là une différence par rapport à l'image que l'on aurait spontanément lorsque l'on pense ou que l'on imagine une intervention musclée d'une divinité. Quand on pense à l'intervention musclée d'une divinité, à quoi pense-t-on? La divinité arrive et envoie le feu du ciel. C'est ce qu'on imagine spontanément. Ici, c'est de la justice dont Dieu se revêt. C'est du salut dont le Seigneur fait son arme. Il agira avec puissance, oui, mais cette puissance sera au service de la justice. À chacun, il donnera ce qu'il mérite. C'est précisé par le texte. Et il apportera le salut en guise de victoire à son peuple. Et c'est pourquoi il s'en revêt comme d'un casque avec un beau panache, certainement. Ces armes, donc, dont Dieu se revêt dans ce texte d'Ésaïe, ça dit les qualités qu'il met en œuvre dans son action puissante. Et nous sommes, nous aussi, invités à revêtir les armes de Dieu, c'est-à-dire à mettre en œuvre un certain nombre de qualités dont il voudra nous revêtir, à faire nôtre un certain nombre de bienfaits dont il nous a fait don. Prenez toutes les armes de Dieu. L'insistance n'est pas sur la quantité d'armes, sur la perfection technique de la panoplie. L'accent porte sur le fait qu'elles sont de Dieu. Prenez toute la panoplie que Dieu vous donne. Elles nous sont données par le Seigneur, qui a le souci de ne pas nous laisser sans rien. Elles sont de Dieu, et de ce fait, elles ne correspondent pas forcément non plus aux armes que se forment les hommes. Paul dira d'ailleurs, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas les armes que se forge l'humanité, marquée par le péché, marquée par les rivalités, marquée par la volonté de puissance. Les armes de Dieu ne sont pas du tout de cet ordre-là, mais elles seront efficaces parce que Dieu s'y reconnaît et parce qu'il accompagnera leur action tout comme il avait accompagné la fronde humainement insignifiante de David face au géant Goliath. Le Seigneur veut nous équiper, mais nous équiper à sa façon, à lui. Mais en vue de quoi ? Il veut nous équiper, nous dit l'apôtre Paul, pour nous faire tenir. Pour nous faire tenir, tenir ferme. Pas pour braver et pourfendre toutes sortes d'ennemis, mais pour tenir bon, nous. Tenir ferme, tenez ferme, vous. C'est nous qui sommes en cause. Nous, dans notre capacité à bien agir. Nous, dans notre capacité à bien réagir. Nous, dans notre capacité à savoir résister à certaines sollicitations mauvaises. Nous, face à certaines tentations de tout lâcher, de tout abandonner. Nous, lorsque nous risquons de perdre pied, de déraper, de nous écrouler. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, afin de pouvoir tenir ferme. C'est ça l'enjeu de l'apôtre, c'est le souci de l'apôtre. Équipé pour tenir, malgré tout ce qui peut nous faire vaciller. Et ceci, nous dit l'apôtre Paul, tenir ferme après avoir tout surmonté. Autrement dit, on ne vivra jamais sur les lauriers d'hier. C'est chaque jour qu'il faut s'équiper tout à nouveau pour tenir bon. Certains le savent, face à une maladie, quand une attente se fait longue, dans une lutte contre un mauvais penchant, c'est chaque jour qu'il faut remobiliser ses énergies. Chaque jour qu'il faut trouver auprès de Dieu les ressources pour faire face. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Ne pas se laisser endormir par la victoire d'hier. Voilà le but de cet équipement, nous permettre de tenir ferme. Quelles sont donc les attitudes et les ressources que Dieu nous propose pour la fermeté? L'apôtre emploie une image, celle d'un soldat, tel qu'on le voyait dans l'Empire romain. Nous, les soldats romains, c'est par Astérix qu'on les connaît, qu'on en a une petite idée, pas plus. C'était beaucoup plus fréquent pour l'apôtre et pour ses destinataires. C'est un peu moins immédiat pour nous de nous représenter ce fameux soldat que pour Paul et ceux qui étaient à son époque. On appelle ce passage les armes du chrétien. C'est légitime. Mais le piège, me semble-t-il, le piège à éviter, c'est de passer tout notre temps à reconstituer ce qu'était un soldat romain et d'oublier ce qui est visé par l'apôtre. Ce que vise l'apôtre pour nous aider à tenir ferme, ce sont des attitudes, ce sont des comportements grâce auxquels nous pourrons être solides. Paul nous parle d'attitudes que Dieu nous propose en vue de la fermeté au sein des luttes, des combats que nous pouvons connaître. Ce sont des attitudes qu'il nous décrit en employant l'image familière pour lui d'un soldat romain. Certaines de ces attitudes, d'ailleurs, sont un peu décalées par rapport à ce qu'on évoque habituellement quand on parle d'un soldat. Paul, par exemple, parle de l'évangile de paix pour dire ce qui doit animer et motiver les avanciers chrétiennes. L'évangile de paix. Le chrétien est un soldat pour la paix, motivé par l'évangile de paix. Un casque bleu avant l'heure, en somme. Et il y a là un clin d'œil de l'apôtre pour dire aux chrétiens, vous vous battez, oui, mais pour autre chose que les soldats de l'Empire. Vous vous battez, vous, pour la paix, pour l'évangile de paix. Quelles sont donc ces attitudes, ces dons que Dieu nous fait et qui nous équiperont pour tenir bon? La première attitude qui nous est recommandée, c'est la vérité. Et la vérité, pas juste comme une parole qui doit sortir de notre bouche, mais la vérité plutôt comme ce qui nous structure. Paul la compare à la ceinture d'un soldat, une ceinture qui tient les reins, qui assure un maintien, qui tient ensemble tout le reste, la vérité. De quoi Paul nous parle-t-il en nous demandant d'être ainsi structurés par la vérité? La vérité, c'est d'abord tout ce que Dieu nous a fait connaître de lui-même. Tout ce que Dieu nous a fait connaître de sa personne, de son action, de ses projets, de ses ressources. Paul parle dans cet épître aux Éphésiens de la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire ce que Dieu nous a fait connaître de lui en Jésus. Nous avons besoin, pour tenir bon, de laisser cette vérité de tout ce que Dieu nous a dit de lui-même, de laisser cette vérité devenir notre colonne vertébrale. C'est ce que nous faisons, par exemple, lorsque, dans une situation donnée, nous cherchons à nous rappeler de qui est Dieu, ou que nous cherchons une promesse dans la Bible qui s'applique à ce que nous vivons. Nous cherchons à nous structurer par la vérité de Dieu. C'est ce que nous faisons aussi lorsque, face à une tentation, nous nous rappelons des principes de vie que Dieu nous a donnés et que nous nous appuyons sur ces principes pour refuser la tentation. On offre là une résistance solide, bien étayée, la vérité comme ce qui nous structure, ce que Dieu nous a fait connaître de lui comme quelque chose qui nous donne notre ossature, notre colonne vertébrale. Mais la vérité, c'est aussi une attitude personnelle de sincérité et d'intégrité. Dieu demande aussi de nous, en tant que chrétiens, d'être de ceux qui parlent avec vérité à leur prochain. Je cite des textes de l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 4, verset 25. De ceux qui renoncent au mensonge. Même référence. Et c'est une vraie force structurante aussi que de décider que, quoi qu'il arrive, on veut rester honnête, on veut rester vrai, on veut rester droit. Ce n'est pas le plus facile. Le mensonge et les petites entourloupes pour s'en sortir sont parfois bien plus commodes à court terme, pas avec tout ce que ça entraîne. Mais il y a là une vraie force de dire « je veux tenir mon intégrité, je veux rester dans la lumière, je veux pouvoir rendre compte de mes actes sans rougir ». C'est ça aussi, être vrai. Je ne veux pas trahir les gens. Je refuse de rouler les autres dans la farine. Je saurai reconnaître mes erreurs. On pourra compter sur ma parole. Paul nous invite à une ferme résolution de vérité, dans ce sens-là aussi. Ce sera une vraie colonne vertébrale. Et c'est une première attitude, cette vérité, connaissance, de reconnaissance, une place de ce que Dieu nous a fait connaître, attitude personnelle de vérité, d'intégrité. Mais le pactage que Dieu nous propose pour tenir bon dans les différentes circonstances de la vie et face au combat comprend aussi la justice dont il nous invite à nous revêtir de la justice. Et Paul compare cette justice à la cuirasse d'un soldat. Elle est une protection, ce qui nous rend invincibles, à moins qu'il y ait quelque part un défaut de la cuirasse. Ce qu'une cuirasse couvre est bien protégé. Alors là encore, de quelle justice est-ce que Paul parle-t-il ? Dans bien des textes, lorsque Paul parle de justice, de la justice, il a en vue la justice que Dieu nous donne. Jésus, en mourant sur la croix, a pris sur lui notre condamnation. Tous ceux qui croient en lui sont mis au bénéfice de cette œuvre de Jésus. Et c'est ainsi donc que nous pouvons être déclarés justes, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que Dieu nous fait ce cadeau par pure grâce de nous revêtir de la justice de Christ au lieu de nous revêtir de nos habits un peu sales et troués. Et il y a là une force extraordinaire de savoir que nous recevons notre justice de ce que le Christ a fait pour nous. Et Paul en parle vraiment comme une force très, très, très prégnante pour le chrétien. Qui accusera les élus de Dieu, dit-il? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Mais Christ est mort bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et Paul peut aller jusqu'à dire qu'il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont ainsi unis à Jésus-Christ. Et il y a là, nous dit l'apôtre, une vérité du salut dont nous devons faire une vraie protection pour tenir ferme. Nous savons nos manques. Nous sommes bien conscients de nos fautes. Nous savons toutes les fois où nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Toutes les fois où nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous devrions être pour les autres. Et c'est facile, il est facile de nous décourager, de nous dévaloriser, de tomber dans des abîmes de remords, de nous déclarer indignes de tout, et parfois même de vouloir nous punir nous-mêmes à cause de la conscience de ces choses. Paul nous dit, plutôt que de t'abîmer comme cela, souviens-toi de la façon dont Dieu te voit. Souviens-toi de la façon dont Dieu t'accepte malgré tout, parce qu'il a choisi de te mettre au bénéfice de ce que Jésus a fait pour toi, si tu as ouvert ta vie au Seigneur et si tu as cru en lui vraiment. Souviens-toi de cela et fais-en ta force. Oppose cela à toute pensée de découragement, d'indignité, de dévalorisation, de culpabilité, de condamnation. Ne laisse rien ni personne te dire que Dieu ne veut plus de toi. Reviens à lui, reconnais tes fautes, tes manquements, mais ensuite protège-toi de son pardon. Protège-toi, fais-en ta cuirasse et tiens ferme. Solide dans cette certitude, tu es protégé par la justice que Jésus-Christ t'a acquise à la croix. Voilà une arme que le Seigneur nous donne pour tenir bon. Une certitude du salut qu'il nous laisse pour nous donner une assise forte. La justice comme don que Dieu nous fait et qu'il nous faut valoriser face à tout ce qui nous casserait d'une manière ou d'une autre. C'est tellement important pour tenir ferme. Il s'agit là de la justice dont Dieu nous revêt par pure grâce. Mais lorsqu'Ésaïe a parlé de l'action de Dieu, Ésaïe dit que le Seigneur, dans son action pour son peuple, se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et là, il s'agit d'un peu autre chose, pas d'un don qui est fait, mais il s'agit là d'une attitude endossé par le Seigneur lui-même et dont il fait la marque de son action. Il va se battre pour son peuple, mais il va le faire avec justice. La cuirasse dont il est question, c'est l'habit qu'on revêt quand on part en bataille. Et Paul, en nous disant « mettez la cuirasse de la justice », nous dit aussi une autre chose, que s'il faut, nous faut nous battre, s'il nous faut nous opposer à quelqu'un ou à quelque chose, il nous faudra veiller à le faire toujours avec justice, en veillant très fermement à rester juste, à rester équitable, à rester mesuré dans nos jugements, à rester mesuré dans les sentiments que nous laissons nous envahir, en restant mesuré dans nos actions, en restant mesuré et juste dans les moyens que nous employons. Et il y a là aussi une protection contre tant de dérives où nous nous laisserions emporter par quoi ? Par la colère, par le ressentiment, par la vengeance, par les préjugés faciles. Décider d'être juste et de le rester, c'est une autre manière de tenir ferme. Et c'est aussi une attitude qui fait partie de ce pactage que le Seigneur nous donne pour tenir bon. Autre élément du pactage que le Seigneur nous donne, il nous fait porteurs d'une bonne nouvelle fondamentale, d'une bonne nouvelle de paix. C'est le côté casque bleu du chrétien. Il est dit, mettez à vos pieds le zèle, les dispositions que donne l'évangile de paix. Nous savons que Dieu veut notre paix. Nous savons que Dieu veut nous réconcilier avec lui, qu'il a tout fait pour cela, qu'il a tout donné pour cela. Christ est notre paix, disait l'apôtre Paul un peu plus haut, au chapitre 2 de cette épître aux Éphésiens. Il est venu nous annoncer la paix comme une bonne nouvelle, nous dit l'apôtre dans ce même passage. Nous avons par la foi la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Le chemin est ouvert. Et cela, Dieu le fait pour tous, sans distinction de personne, de race, sans distinction de statut social, sans privilège religieux pour personne. Et cela casse les murs qui séparent les hommes, ça casse les communautés qui font qu'on s'oppose. Dans l'Église déjà, on voit cela, nous avons les uns et les autres, dit l'apôtre, accès auprès du Père dans un même esprit. Ceux qui étaient loin, ceux qui étaient proches, ceux qui étaient juifs, ceux qui étaient païens, qui étaient autrefois séparés par un mur qui les empêchait de communiquer, tout cela est fini. L'évangile est un évangile de paix. Dieu nous donne accès à tous. Il y a là une bonne nouvelle de paix sur toute la ligne, dans toutes les directions, dans toutes les perspectives. Et Paul nous dit, mes amis, c'est ça qui doit vous motiver. Voilà ce qui doit vous motiver, cet évangile de paix. Voilà ce qui doit devenir un moteur pour votre vie, une motivation vers les autres, une force intérieure, parce que vous savez que cette œuvre de Dieu, cette œuvre que Dieu fait, dont vous êtes témoin, dont vous êtes porteur, cette œuvre de Dieu, elle est belle, elle est large, elle est harmonieuse. L'évangile de paix. Paul parle du zèle que doit nous donner cet évangile de paix. Et ce mot évoque une disposition intérieure qui donne envie d'agir, mais qui fait aussi agir avec constance, avec détermination. Et il compare ça aux chaussures d'un soldat parce que oui, ça doit nous faire marcher, ça doit nous faire avancer, ça doit nous mettre en mouvement, ça doit nous donner de l'allant, ça doit nous donner de la persévérance. La fermeté d'un chrétien est dynamique. Elle lance dans toutes sortes d'engagements parce que l'Évangile est une bonne nouvelle de paix. Et nous sommes invités à être de ces casques bleus de l'Évangile de paix, actifs et motivés par l'Évangile de paix dans toute sa dimension. Il dit, y compris aussi la paix finale que le Seigneur apportera lorsque toutes choses seront récapitulées en Christ. Motivé par cet évangile de paix dans toute sa dimension si belle, si large, et toutes ses implications. Mais tout cela, nous ne sommes pas appelés à le mettre en œuvre tout seul. Dieu veut être avec nous, nous soutenir, nous accompagner, nous protéger. Et nous pouvons avoir confiance en lui, vraiment confiance en lui. Et c'est un autre élément du pactage que le Seigneur nous donne. Aie confiance en moi. Aie confiance en moi. N'imagine jamais que tu seras seul, que tu seras abandonné. Fais-moi confiance, je suis là. Ne pense jamais que tu n'y arriveras pas si tu dois faire quelque chose que je te demande. Aie confiance, j'ai les ressources. Ne te décourage pas si c'est exigeant. Prends confiance, je marche avec toi. Ne sois pas déstabilisé si tu traverses une tempête, si tu ne vois pas clair quant à ton avenir, si tu rencontres de l'opposition. Aie confiance, je suis ton Dieu. Ne te laisse pas accabler par les reproches, les circonstances contraires. Aie confiance en mon amour, aie confiance en mes promesses, en mon pardon. Ne cède pas à une tentation à faire le mal, même si elle te semble d'une force irrésistible. Crie à moi, fais-moi confiance, je viendrai à ton secours. Et si des choses contraires semblent un peu trop convergentes pour être le simple fruit du hasard, ne te laisse pas déstabiliser par ce trait enflammé du malin. Réclame-toi de ton Dieu, aie confiance dans ton Seigneur. Il a vaincu toutes les puissances à la croix et tient ferme. Tant de choses peuvent nous déstabiliser. Tant de choses peuvent nous atteindre comme une flèche en plein cœur. Dieu nous invite à opposer à ces choses une foi ferme, une confiance vraiment dans notre Seigneur, une confiance en Dieu qui trouve vraiment en lui, par sa présence, par son secours, les forces nécessaires pour la fermeté. Et cela, nous dit Paul, ce sera pour vous comme un bouclier, un large bouclier, bien protecteur, bien solide. La confiance comme attitude permanente, la confiance comme recours de chaque situation. Et puis, continue Paul, il nous faut aussi veiller sur notre mental, protéger notre tête de tout ce qui pourrait là-dedans nous insécuriser, nous intimider, nous décourager. Et Paul parle ici d'un casque à revêtir pour assurer cette protection. Il lie ce casque au salut. C'est l'assurance du salut que Dieu nous donne, qu'il nous promet et qu'il réalisera. Paul nous demande vraiment de dire « Gardez vraiment à l'esprit la certitude du salut que Dieu vous a donné. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas impressionner par tout ce qui pourrait vous ravir cette certitude que Dieu vous a donné son salut. Tenez ferme aussi dans cette chose-là. » Paul ne veut pas dire que nous devons penser uniquement au salut en tout temps. Nous avons à mener notre vie sous tous ses aspects, en toute intelligence et responsabilité. Mais nous ne devons pas nous laisser accaparer par ces choses de la vie au point que ça nous enlève la conscience ou la joie de ce salut que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas nous laisser étouffer par les soucis ou par les distractions de la vie au point que l'œuvre de Dieu dans notre vie et pour notre vie devienne insignifiante, ne porte plus de fruits, n'est plus de place vraiment dans notre esprit parce qu'on est tellement occupé à toutes sortes de distractions ou de soucis. Nous ne devons pas non plus nous laisser décourager au point d'oublier combien nous comptons pour Dieu et combien il tient de choses en réserve pour nous encore. Paul nous invite régulièrement à nous réjouir du salut de Dieu. Il commence cet épître aux Éphésiens par cela, « Bénissez Dieu, il vous a tellement béni en Jésus. Réjouissez-vous de ça. » Et pour tenir bon, c'est important de garder bien vivante en nous, bien forte en nous, cette certitude du salut. De garder bien vivant en nous aussi cette importance du salut, cette importance de cette œuvre que Dieu fait. De garder bien vivant en nous cette beauté du salut que Dieu nous a donnée. De bien nous souvenir aussi du prix que le Seigneur a mis à notre salut, de bien nous rappeler de l'espérance qui se rattache à son salut. Le salut pour mental, gardez cela vraiment dans notre esprit et nous laisser protéger de toutes sortes de choses qui pourraient nous perturber, nous distraire, prendre la place. Mais pour tenir ferme, il faudra aussi savoir opposer une réplique forte à ce qui pourrait nous déstabiliser, nous menacer, nous attaquer. Et les ressources de cette réplique nous sont données, nous dit l'apôtre, par la parole de Dieu. Cette parole, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspirée et il veut que vraiment nous nous en servions encore et encore face à tout ce qui pourrait nous faire perdre pied. Et c'est vrai qu'il y en a des choses qui nous sont données dans cette parole de Dieu, dans l'Écriture, la Bible, qui nous aident vraiment à faire face à ce qui pourrait autrement nous faire perdre pied. Il y a tellement de promesses qui nous sont données là, utiles, tellement nécessaires, précieuses. Il y a des avertissements aussi qui nous sont donnés, on en a parfois besoin de cela. Il y a des enseignements qui nous sont donnés, des exemples à suivre, à éviter. Des rappels à l'ordre, tout ça c'est dans la parole de Dieu. Dieu a multiplié les manières de nous parler. Dieu a multiplié la façon dont il nous rejoint dans ce que l'on vit par sa parole. Et il y a là une ressource forte qui nous est donnée. Mais une ressource que nous sommes appelés à appliquer vraiment comme une vraie réplique face à ce qui pourrait nous faire basculer, face à ce qui pourrait nous déstabiliser. Jésus lui-même l'a fait lorsqu'il a été tenté par le diable. Il a donné à la parole cette force d'une réplique. Et ce que nous sommes appelés à faire aussi. Nous devons, pour tenir ferme, donner à la parole de Dieu ce rôle d'une force qui donne la réplique, qui oppose quelque chose de ferme, qui dit stop, qui juge, qui évalue toute chose, qui répond à un doute, à une objection, à une idée fausse, à un découragement, à une tentation. Et c'est pour cela que Paul la compare à une épée qui permet de stopper net, de trancher, de présenter une parade de manière ferme et décisive. Et nous avons à apprendre à manier ainsi la parole de Dieu. Elle est une nourriture bienfaisante, c'est bon, ça nous ressource, ça nous fait du bien, oui, c'est très important de vivre cela. Mais c'est important aussi que lorsque nous avons reçu, nous sommes ressourcés, nous sachions là où il le faut, avec cette parole, donner la réplique pour vivre et tenir selon ce que Dieu attend de nous, selon qu'il est juste et selon ce que Dieu veut nous aider à faire. Il nous faut pour cela nous en nourrir, mais pas seulement. Nous avons à défendre notre intégrité avec résolution. Et la parole de Dieu, elle est là, suffisante, riche, diversifiée, forte de toute sa vérité. Et l'Esprit de Dieu qui l'a inspirée veut aussi nous conduire dans notre façon de nous l'approprier et de l'utiliser à bon escient pour répliquer là où il le faut pour nous-mêmes et aussi dans les discussions, les évaluations de telles choses ou notre témoignage. Équipé pour la fermeté. Ce texte de l'apôtre Paul nous dit vraiment avec force que Dieu ne nous a pas laissés sans ressources, loin de là. Il ne nous a pas laissés sans ressources. À toutes celles que l'apôtre évoque sous la forme par l'image du soldat, s'en ajoute deux autres, celle de la prière, celle de la communauté. Il rappelle « Priez en tout temps par l'Esprit, faites toutes sortes de prières ». Et là, nous avons tellement besoin de cela aussi pour vraiment tenir ferme la prière qui irrigue notre vie, qui accompagne notre expérience. Et la communauté aussi, parce que Paul dit « Priez pour moi ». On a besoin des prières les uns des autres. Et là aussi, c'est une force que de pouvoir vivre cela ensemble. Dieu nous a équipés pour la fermeté. Il ne nous laisse pas sans ressources. Alors saisissons-nous de ces ressources, demandons-lui la grâce de savoir les utiliser toutes à bon escient, faisant de ces ressources notre colonne vertébrale, notre motivation, notre persévérance. Et le Dieu de paix sera avec nous. Que le Seigneur nous bénisse tous pour cette rentrée. Amen.